RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Julien Laurence, Daniele Manoucia, Edgar Grelot, Paulo Breitner. On est ensemble, bien sûr, pour refaire l'actualité, faire l'actualité des championnats étrangers, Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette aventure drôle de dame. Ah, quelqu'un se sert un petit café, j'ai l'impression, là. Un petit thé.
Non,
ça, c'est
pas moi.
Ça, j'ai l'impression.
C'est pas
ça.
Moi, non, c'est pas moi.
Ça, c'est un petit Nespresso, Daniele, c'est quoi?
Non, pense...
moi. C'est de l'eau pétillante, on aurait dit.
Ouais, ou quelqu'un aux toilettes, hein, peut-être aussi. C'est pas possible. Qui se dénonce, s'il vous plaît? C'est Polo?
Ah, c'est pas moi, messieurs.
Ah, c'est le thé, c'est une verveine. Voilà, c'est la verveine allemande. Magnifique.
Il est tard pour Polo, déjà.
Oui, exactement.
Bon, les gars, le ballon d'or, ça vous intéresse ou pas? Non, on passe à autre chose, on s'en fout.
Ah oui, bien sûr.
Pedri 11e, c'est.
Ah ça, c'est oui, c'est très
alors,
sévère.
Alors celui-là,
c'est dur. C'est dur.
Ouais, je pense que Pedri, quand il voit qu'un joueur, alors c'est pas pour le viser que lui, hein, mais quand il voit que Cole Palmer est devant lui sur l'entièreté de la saison, ça doit un petit peu le frustrer quand même. Hein, parce que on a des débats de savoir qui est le plus important entre Pedri et Lamine Yamal. Hein.
Bah, il y a quand même certains votants qui ne doivent pas regarder beaucoup de Chelsea et Cole Palmer hein, pour l'avoir mis plus haut que Pedri.
Moi j'ai dit Lamine Yamal premier, Cole Palmer deuxième, Pedri troisième, Dembélé quatrième.
Bon, une surprise donc ce serait pour toi.
Oh, tu mets vraiment Cole Palmer? Ah, le classement que tu imagines, tu veux dire?
Moi j'adore Cole Palmer. Non, mon classement idéal, moi j'adore
Cole
Palmer.
Oui, mais idéal, on juge la saison.
Pas sur la saison là.
Daniele, soyons sérieux, c'est l'after ici, au Daniele.
Non, mais un idéal.
L'idéal, dans tes rêves, Daniele, effectivement, dans tes fantasmes. Bon, en tout cas, là, au moment.
Dans tes rêves où Cole Palmer joue à la Roma, c'est ça?
Je crois que ça n'arrivera jamais. Tu n'auras jamais les moyens, mon cher Daniele, malheureusement.
Non, à 40 ans, quand il a 40 ans.
Oui, c'est ça, pour les pads de la Serie A. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que là, on enregistre ce podcast en plein OM-PSG et qu'on voit des joueurs parisiens qui défilent sur le tapis rouge du Ballon d'Or devant le Théâtre du Châtelet. Voilà, le foot dans lequel on vit, les amis, aujourd'hui, alors que leurs coéquipiers jouent un des matchs les plus prestigieux de leur saison en Ligue 1. Alors, il y a pas mal de cas de coach sous le feu des critiques chez vous dans vos championnats. Je vais commencer avec toi, Julien. Chelsea, ce bon vieux Enzo Maresca. Alors, on est resté au milieu de l'été sur une très belle promesse, hein. Victoire en Coupe du Monde des clubs, émergence de talent, recrue efficace tout de suite. Bilan après 5 journées de Première Ligue, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. La première défaite, c'était ce week-end contre Manchester United. C'est indigne, défaite 2-1. Et là, est-ce qu'il prend cher ou on commence à douter un petit peu de ce qu'il fait alors qu'il a fait plutôt une bonne saison dernière?
Ouais, c'est vrai que j'étais très déçu samedi parce qu'on a vu, alors c'est pas de sa faute si son gardien qui a l'habitude un peu de faire n'importe quoi parfois a refait n'importe quoi en sortant comme ça kamikaze sur Brian Mbeumo, se fait expulser à la 5e minute alors que comme l'a dit à juste titre Maresca d'ailleurs et je pense qu'on sera tous d'accord, laisse Mbeumo venir en 1 contre 1, il est même pas sûr de marquer et s'il marque c'est pas grave, on perd 1-0 mais on est à 11 contre 11, il reste 85 minutes. Mais de se retrouver à 10 contre 11 à la 5e minute, sincèrement, à l'extérieur, dans des conditions dantesques, parce qu'il pleuvait comme jamais à Manchester. Enfin, si, il pleut beaucoup à Manchester, mais là, même moi, j'avais rarement vu ça à Manchester. C'était très compliqué. La grosse erreur de Sanchez n'aide pas Maresca. En revanche, ce qui est très, très, très bizarre de sa part, c'est que ton gardien se fait expulser, tu le remplaces, tu sors un joueur de champ pour faire rentrer ton gardien remplaçant. Pas de problème, mais c'est que dans le même changement, il a aussi sorti il a sorti Estevao, un attaquant, pour faire rentrer Jorgensen, d'accord. Il sort aussi Neto, un autre attaquant, pour faire rentrer un autre défenseur central, pour passer dans une défense de 4, donc à 5. Il faudra m'expliquer comment, à un moment, tu es parti sur une défense à 4, et donc 5 minutes dans la rencontre, certes, tu es à 10, mais pourquoi d'un seul coup, tu vas changer toute ta tactique finalement et tout ton plan de jeu pour passer dans une défense à 5 et finalement inviter la pression et renoncer dans un sens, puisque ça a été ça. À la 20e minute, il sort Cole Palmer, le chéri de Daniele. Et alors là, j'ai plus rien compris du tout, parce que même Cole Palmer avait l'air de dire « Mais pourquoi tu me sors moi? Pourquoi maintenant ?» Alors que ça n'avait aucun sens à ce moment-là non plus. C'était très compliqué de la part d'Enzo Maresca, qui déjà, vendredi, dans sa conférence de presse d'avant-match, avait fait pas mal de gros titres en Angleterre pour ce son-là qu'on va vous passer maintenant.
I've been in Raheem's situation and Axel's situation as a player.
J'ai été dans la même situation que Raheem et Axel en tant que joueur et je sais que ce n'est pas agréable. Mais cela arrive dans tous les clubs du monde. Si vous ne faites pas partie de l'équipe, vous n'êtes tout simplement pas impliqué.
My father is 75 years old and for 50 years he has been fisherman.
Mais à côté de ça, mon père a 75 ans et il est pêcheur depuis 50 ans. Il travaille de 2h à 10h du matin. Ça, c'est une vie difficile et ce n'est pas le cas des joueurs.
This is hard in life, not player where they work.
C'est ça, il parlait du sort. Enfin, il y a une question sur le sort réservé à Disasi et Sterling.
Voilà, c'est ça.
Qui ne s'entraînent plus avec l'équipe première, c'est ça. Ils sont sur le côté.
C'est ça. Et donc, cette semaine, donc c'était la semaine dernière, pardon, jeudi soir, je crois, ou mercredi soir, Sterling a mis une story sur ses réseaux sociaux où il était 20h30 ou 21h et il s'entraînait donc à Cobham tout seul. Je peux vous rassurer, il n'y a plus personne à Cobham à part peut-être les jeunes qui s'entraînent encore, mais les très jeunes qui s'entraînent peut-être à cette heure-là. En gros, pour dire, regardez comment on nous traite, Disasi et moi, on est tout seul, on est là. Donc, la réponse de Maresca, que tu écartes des joueurs, que tu aies des lofts, ça arrive partout. Je ne suis pas là pour. Tu fais ce que tu veux, c'est ton club, tu as des gros effectifs. Peut-être que parfois, tu considères qu'un ou deux joueurs en plus dans ton effectif, dans ton équipe première, c'est trop. Peut-être, je veux bien l'entendre, et encore. Mais sa réponse sur un métier beaucoup plus difficile, celui de son père, qui est pêcheur depuis 50 ans, etc., qui doit se lever très tôt. Être joueur de foot, certes, c'est génial, il gagne beaucoup d'argent, c'est un métier, c'est ta passion plus qu'un métier, vraiment, peut-être, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs de foot ne souffrent pas, que mentalement c'est pas compliqué par moment, c'est pas toujours tout rose pour les joueurs de foot non plus. Et moi, sa réponse à Maresca vendredi, je l'ai trouvé inacceptable. Et beaucoup de gens en Angleterre se sont sincèrement offusqués qu'il ait dans un sens justifié sa décision de laisser Disasi et Sterling comme des moins que rien, dans un sens, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'entraîner, ils n'ont pas le droit d'être là quand l'équipe première est là, quand Maresca est là. Ils doivent être à part, ils ont certes un préparateur physique avec eux quand ils le souhaitent, mais c'est quand même pas des conditions, même si on l'a expliqué, il y a des lofts qui arrivent dans tous les clubs, notamment dans les marchés des transferts.
En général, ça s'arrête à la fin du mercato. En tout cas, exactement. En France, là, c'est comme ça, tu dois réintégrer tes joueurs à l'équipe première, à l'entraînement.
Là, c'est assez rare. Et moi, j'ai trouvé le manque de compassion dans un sens. Il avait pas besoin de sortir l'histoire de son père. Voilà, il aurait très bien pu dire, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, je comprends, c'est pas facile à vivre. En plus, il dit, j'ai été dans cette situation-là. Lui aussi, à un moment, il a été mis de côté par des entraîneurs quand il était joueur. Et donc, que lui ait vécu ça et que maintenant, il le fasse vivre à Sterling et Disasi, mais qu'en plus, il en parle de cette façon-là, moi, j'ai trouvé ça assez déplacé.
Oui, tout à fait. Et puis, alors, après, ce que certains mettent en avant, les défenseurs de Maresca disent que ces deux joueurs à qui on a proposé de partir, qui avaient peut-être des possibilités pour aller voir ailleurs et qui ne l'ont pas fait, et qui auraient pu rendre leur situation plus facile que de s'entraîner en marge de l'équipe première de Chelsea. Bon, quelqu'un veut réagir à ça, justement, l'argument du « vous gagnez assez d'oseille, ne vous plaignez pas les amis, il y a pire dans la vie ».
Ben moi, je peux dire que pêcher, c'est une des activités les plus belles au monde. Donc, déjà, ça, c'est...
En plus, t'as raison.
On comprend pas.
Oui, enfin, quand c'est ton travail, c'est plus dur.
À 2h du matin aussi, ou
ouais,
pas
c'est plus dur non, quand tu pars dans la mer du Nord, dans la Manche, sur un chalutier, c'est pas évident.
Comme dirait Marx, le problème, c'est pas pêcher, c'est le travail.
Exactement.
Ouais, je crois qu'il y a une connexion Daniele et Polo qui est en train de s'écrire cette saison. Bon, Daniele, justement, restons avec toi, chez toi, Stefano Pioli, puisqu'on parle d'entraîneur un peu en difficulté dans ce début de saison. Pioli, on se rappelle, un champion d'Italie avec le Milan en 2022, qui était parti en Arabie Saoudite pour cachetonner, justement. Il revient en Italie, la Fiorentina, à l'arrivée, qui fait une bonne saison dernière, mais qui est au plus mal depuis son arrivée cet été. 17e de Serie A, encore battu ce week-end.
Bah oui, Pioli, il a gagné le championnat avec Milan. Après, il est parti à l'Al Nassr. On parlait de lui même pour l'équipe italienne, après que Spalletti était parti. Lui, il a choisi la Fiorentina. Fiorentina qui a fait un choix de son côté bizarre, parce que Palladino, il avait obtenu de bons résultats. Il faut rappeler, l'année dernière, la Fiorentina, elle est arrivée sixième devant Bologne, Milan et Lazio. Et ils se sont quittés avec Palladino, l'entraîneur d'avant, sans aucune explication. C'est-à-dire, à ce moment-là, les supporters, ils ne savent pas pourquoi Palladino il a donné ses démissions. Et là, la Fiorentina, elle est très mal en pointe. Elle vient de perdre contre Como à la maison, c'est-à-dire à domicile. Un match très... La deuxième mi-temps, surtout très, très blessant. Moise Kean, il n'a pas encore marqué un but en championnat lorsqu'il marque avec l'équipe nationale. Et il y a une grosse sensation de décadence chez la Fiorentina. Et vu qu'il y a aussi la Conference League à faire, là aussi, ils ont fait de mauvaises figures. Ils sont arrivés à se qualifier, mais ils ont des matchs un peu carambolesques contre des équipes improbables. Et là, ça commence un peu, les publics de Firenze, et ils ont sifflé Pioli et l'équipe, bien sûr, à la fin du match contre Como, perdu à la 84e minute en plus, 14e minute, pardon. Donc, c'est vraiment un moment délicat, et la Fiorentina, elle a un calendrier difficile, parce que ce week-end-là, il y a le derby contre Pisa, Mais après, il a la Rome, Milan et Bologne et Inter. Donc voilà, ça va être 4 matchs. Moi, je pense que Pioli, regardez-le bien maintenant, parce que je ne sais pas si dans 4 matchs, il est encore là et vous pouvez admirer sa beauté.
Écoutez, pour retourner en Arabie Saoudite éventuellement, peut-être. Stefano Pioli. Edgar, est-ce que tu as un coach en difficulté dans ce début de saison, toi, que tu veux évoquer ?
Oui. Michel, qui est l'entraîneur de Gérone du coup, depuis 2021, c'est quelqu'un qui a fait tant de belles choses pour ce club, qui l'a fait monter en Liga, qui l'a amené jusqu'à la Ligue des Champions, n'oubliez pas. Mais déjà, la saison passée, sur la deuxième partie de saison, c'était assez cata et ils avaient pourtant assez bien commencé la saison et finalement ils terminent 16e, ils se sont même fait un petit peu peur. Le début de saison est complètement catastrophique de leur côté, ils sont tout simplement derniers du championnat, un nul, 4 défaites. Et ce qui est dingue, c'est que il y a tellement de respect pour cet entraîneur que les gens n'appellent pas non plus à ce qu'il parte, mais c'est lui-même qui dit que c'est une possibilité et qui dit que si ça change pas, il va falloir quand même faire un pas de côté. Et il a eu cette déclaration assez lunaire après la défaite 4-0 ce week-end, 4-0 à domicile face à Levante promu, et il dit qu'il veut un reset total de l'équipe, que les joueurs doivent faire dégager en gros leur ego, que lui il a dégagé son ego, il dit je suis le pire entraîneur de Liga actuellement. Voilà. Wow. Donc lui-même se met dans cette position-là. En tout cas, c'est la crise et ce serait quand même assez fou de voir Gérone. Alors, c'est le début de saison, hein, mais en tout cas, ça fait pas que quelques matchs qui sont en difficulté, puisque c'était déjà le cas à la fin de saison. Ce serait dingue de les voir éventuellement descendre alors qu'ils étaient en Ligue des Champions la saison passée. Et avec Michel, on a l'impression d'une équipe, d'un entraîneur en fait, qui dit des choses mais où les joueurs n'entendent plus, où ça marche pas, ça clique plus en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, on a l'impression que la magie n'est plus là. Et en tout cas, ça, si ça continue comme ça, ça va être compliqué de garder son poste, je pense, pour lui.
Voilà pour Michel. Alors Paulo Getoy, il y a un coach hein, qui a un nom façon grand couturier qui était en pleine hype, Sandro Wagner, ex-adjoint de Nagelsmann en sélection National Mannschaft. Est-ce alors, que cette mode rappelle... est déjà finie? Son FC Augsbourg est au plus mal.
Ben, je vous rappelle que l'année dernière, on avait quasiment fini la saison où je disais que ça me faisait rigoler que Sandro Wagner prenne Augsbourg et on m'avait dit est-ce que ce serait une prise de risque. C'est un peu comme si une rockstar allait faire un concert dans une petite ville très calme, très bourgeoise, République des cheveux blancs, si vous voulez. Donc ça te fait un petit peu spécial parce que, évidemment, la hype autour est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous avez mis le son que je vous ai envoyé. En tout cas, Mario Basler était invité sur Doppelpass ce week-end. Et très clairement, donc Mario Basler, rappelons-le, il a un très beau palmarès, mais ce n'est pas le plus grand professionnel du monde. Hein. Il fumait, il allait en boîte, etc. Il buvait beaucoup avant ses matchs. Et il a expliqué qu'il avait déjà expliqué dans son podcast ce qu'il pensait tout le mal de Sandro Wagner, en disant que de toute façon, il exagère partout dans sa communication externe. Et le présentateur lui dit, mais où? Mais il dit partout, tout le temps. Il dit, le vrai problème, c'est que ce gars, c'est un prétentieux, c'est un vaniteux, c'est un arrogant. Il ne sait même pas ce que c'est d'entraîner une équipe de football. On n'est pas en train d'entraîner Unterharing ou être assistant de Nagelsmann. Là, tu es en Bundesliga, tu dois éviter les erreurs de communication, tu dois éviter de parler à la place des joueurs. En gros, il n'est pas Mourinho, Sandro Wagner. Et là, il s'est fait rhabiller Sandro Wagner par Mario Basler. Et ce qui est intéressant, c'est que les journalistes ont essayé de trouver un argument en disant « Bah oui, mais nous, parfois, on se plaint d'avoir des coachs qui sont un peu trop lisses dans leur communication, etc. C'est sympa d'avoir un mec comme ça. » Et Mario Basler, dès le début, dit « Fais gaffe à ce que tu vas dire. » Déjà parce que tu n'es pas footballeur professionnel, donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une logique de résultat. C'est-à-dire que tu peux flamber comme tu veux. Il a gagné la première journée à Fribourg. Tout le monde s'est emballé. Oh, l'effet Wagner, etc. L'effet a fait pchit, évidemment. Et la défaite de ce week-end contre Mayence, 4-1, était lamentable, aussi bien défensivement que sur l'animation offensive. Et donc, Mario Basler lui a dit, mais il va falloir qu'il retombe sur terre très, très rapidement, qu'il se mette à mettre le bleu de chauffe, à commencer à travailler avant, plutôt que de se croire déjà arrivé tout là-haut. C'est assez extraordinaire, en fait, la façon dont, je trouve, certains anciens champions allemands aiment rhabiller les joueurs des autres générations. Et en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec Mario Basler, parce que Sandro Wagner, c'est quand même quelqu'un de très, très spécial.
Bon, en tout cas, le bouc est parfaitement taillé, mon cher Polo. Hein, la mèche est parfaitement gelée également. carton de Wagner. Ah oui. Le look est important, j'ai l'impression, pour ce garçon. Hein.
C'est très, ah, très pas que le look, les belles voitures, les belles nanas, tout le temps, en fait. Il montre sa richesse, c'est quelqu'un qui est comme ça. Je ne suis pas persuadé que ça plaise à une certaine. À toute l'Allemagne, tout simplement. Mais voilà. Enfin, c'était le second. C'est un ancien international allemand. Il était le backup de Lewandowski à l'époque. Il a fait le bon boulot et tout ça. C'est une personne qui a eu une carrière en Dancy, comme souvent ces genres de personnes un peu, entre guillemets, excentriques, médiatiquement parlant et à l'extérieur. Mais voilà. Et quand tu es à Augsbourg.
C'est ça le truc.
Je crois que ça passe pas.
Voilà, c'est ça l'idée.
Il y a un moment, ils vont se dire bon, bah, t'es gentil, au revoir. Et même les joueurs dans le vestiaire, il y a des journalistes qui étaient sur le plateau de Doppelpass, ils commençaient à dire les échos qu'on a, c'est qu'il y a certains joueurs qui n'aiment pas trop, parce qu'on ne sait pas s'il s'adresse à la presse pour faire son show, on va dire à la Mourinho, ou à la Guardiola, ou à la Jürgen Klopp, ce que tu veux, ou s'il s'adresse en parlant notre nom. Et un coach ne doit jamais parler à la place des joueurs. C'est pas le même boulot, il n'est pas copain. Les choses qui n'existent plus. C'est différent maintenant. Le rôle est très différent.
Voilà pour Wagner. Sandro Wagner, coach d'Augsbourg. Allez, troisième minute de la soirée. Elle est anglaise. On envoie la musique, s'il vous plaît. Allez.
Je te donne de Jean-Jacques Goldman et de Michael Jones, bien sûr, parce qu'on va vous parler des entraîneurs français ou francophones en championship. Et puis aussi, c'était une dédicace à la famille Laurent, surtout papa, maman, les frères et sœurs. Bah oui, c'est Jean-Jacques Goldman, c'est un dieu chez nous. Dieu absolu, parce que ma femme ne comprend pas ici en Angleterre. Hein. Pas du tout, oui, mais bon, en tout cas, chez les Laurent, chez les Jamins aussi, je pense.
C'est très bien pour apprendre le français, je trouve. C'est tellement simple.
C'est vrai.
Que...
Très simple, tout à fait. Tu l'as très bien résumé, mais en tout cas, voilà, c'est pour la famille Laurent aussi. Parce que je cherchais en fait une chanson avec du français, de l'anglais, des britanniques et des français. Parce qu'on va vous parler, donc je vais vous parler de Will Steele, de Julien Stéphan et de Valérien Ismaël, qui sont donc en championship, vous le savez. Et je voulais faire un petit point sur comment ça se passait pour l'instant. Et que ça se passe pas très bien. On va commencer par le meilleur des trois finalement. Hein. C'est donc Julien Stéphan avec Queen's Park Rangers. Ils sont 9e actuellement du championnat. Ils ont battu Stoke ce week-end 1-0 à Loftus Road. 10 points, 3 victoires, un match nul, 2 défaites, dont une cinglante contre Coventry à l'extérieur, 7-1. Il avait pris très cher Julien Stéphan contre Frank Lampard. Mais là, il reste sur 3 victoires de suite avec un effectif qui est un petit peu limité. Ils n'ont pas non plus un pouvoir financier, des moyens financiers, c'est le mot que je cherchais, extraordinaire à Queen's Park Rangers. Donc je trouve qu'il a mis un petit peu, au début c'était normal qu'il s'habitue un petit peu à ce championnat-là qui est très particulier, c'est une très très grande saison, il y a beaucoup beaucoup de matchs, etc. Il y a pas mal de pression, c'est un jeu très physique. Et puis là, 3 victoires de suite, c'est plutôt pas mal pour Queen's Park Rangers, beaucoup mieux en tout cas que Valérien Ismaël. Alors lui qui a eu un match un peu particulier ce week-end avec Blackburn, donc son club, ils gagnaient 1-0 contre Ipswich. Le match a été interrompu à la 80e minute parce qu'il y avait des pluies diluviennes, mais un truc incroyable, le match ne pouvait plus continuer, donc ils ont arrêté, il leur reste 10 minutes à jouer. Ismaël, c'est 2 victoires et 3 défaites pour l'instant, donc avant ce match-là interrompu contre Ipswich, 6 points, ils sont 18e au classement, différence de but de 0, encore une fois c'est pas génial. Lui en revanche connaissait plutôt bien le football anglais et le championship puisqu'il avait été à Barnsley notamment, il avait à West Brom aussi, donc il avait eu plusieurs expériences contrairement à Julien Stéphan. Et puis le dernier, le petit nouveau aussi, c'est Will Steele. Alors lui c'est un peu particulier parce qu'il revient chez lui qui avait vraiment envie de revenir en Angleterre, à Southampton, une défaite 3-1 à Hull City ce week-end. Ils sont 19e, une seule victoire en 6 journées pour Will Steele, moins 2 de différence de but, 6 points seulement. Il a un petit peu du mal à mettre en place son collectif, ce qu'on avait pu voir à Reims ou à Lens par moment, dans un effectif pourtant qui descendait de Première Ligue, qui reste de qualité. Et c'est sûrement le meilleur club des trois, entre guillemets, pour finir le plus haut entre Queen's Park Rangers, Blackburn et Southampton. Mais ça met un petit peu de temps pour Will Steele à s'installer.
Will Steele, qui n'est pas français, hein, je le rappelle, qui est anglo-belge.
Oui, mais voilà, francophone,
oui, voilà, francophone. Voilà, donc tu nous as mis une musique française avec un entraîneur anglo-belge. Voilà. C'était la minute de Julien Laurence. Oui, Polo ?
Non, je pensais à Valérien Ismaël, qui est quelqu'un que j'ai adoré et que j'ai discuté
très respecté en Allemagne en plus.
Lui. Ouais, et qui finalement, autant je l'aimais beaucoup en tant que joueur, hein, parce qu'il a fait les belles heures de Brême, du Bayern, etc. J'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas été appelé en équipe de France. Alors aussi, il y avait un moment où il était blessé, mais en tant que coach. Alors qu'il avait une mentalité très alémanique à l'époque, j'avais parlé avec lui déjà, etc. Il n'a jamais vraiment réussi, sauf en Autriche, à Linz. Mais sinon, son parcours en tant que coach est quand même assez, assez compliqué, on va dire ça comme ça.
Voilà pour Valérien Ismaël, Julien Stéphan. Et donc oui, le style, dans un instant on parle du Milan d'Allegri. Trois victoires consécutives avec Daniele. Tu nous diras ce que tu penses de Rabiot et notamment d'un homme sous-estimé là aussi, Christian Pulisic. On parlera également de Vinicius et de vos ambitions cette saison, les Drôles de Dames, en Europa League. Restez avec nous, la suite dans un instant.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.